La question du travail dans la pensée de Simone Veil a longuement été étudiée par de nombreux spécialistes. Comme le mentionne très bien Robert Chenavier dans son livre « Simone Veil, une philosophie du travail », cette notion est présente et cruciale tout au long de l'œuvre. Il n'y a pas de discontinuité entre la première Veil, ouvrière militante, et la seconde, mystique. Dans les deux cas, la notion de travail est, pourrait-on dire, structurante. Ces différences, il y a quant au traitement qu'il est fait de la notion de travail, il s'agit d'une différence de degré, de franchissement de seuil, et non d'une déviation des intérêts. Je n'ai pas la prétention ici de rendre la complexité de la pensée veilienne. J'interrogerai simplement la manière dont le travail, inhérent à la condition humaine, constitue un apprentissage de la perception. En ce sens, et à l'instar de Veil, j'approcherai à la fois le travail comme activité socialement construite, mais aussi le travail comme condition humaine au sens large. Ainsi, comme le dit Veil, seul le travailleur réalise la condition humaine, car il éprouve sous quelles conditions nous sommes au monde. Il s'agira ici d'aborder ce que le travail donne à éprouver du monde et sous quelles conditions il nous permet de percevoir le monde le mieux possible. À l'opposé, j'interrogerai l'aliénation du travail en tant qu'aliénation de la perception, en tant qu'aliénation des possibilités de conditions humaines. Avec un souci pour l'art du temps et en interrogeant les vecteurs de valorisation au travail qui sont les nôtres, il s'agira de saisir, dans la mesure du possible, ce que l'époque actuelle, dans sa matérialité comme dans son imaginaire symbolique, nous permet d'espérer en termes de conditions de perception. Donc mon premier point, le travail comme perception. Au contraire de l'animal, l'humain, selon Veil, n'agit pas uniquement par impulsion. Le rapport entre les actions humaines et les besoins humains passe par l'intermédiaire de la pensée, laquelle invite, alors qu'elle est au contact du monde, à des actes en vue d'une fin. Toute action doit forcément passer par des intermédiaires. Le temps et l'espace figurent comme possibilité pour nos actions de s'incarner, mais révèle en même temps une certaine impuissance de l'humain par rapport à la matière. Déjà en 1929, Veil écrit dans son article « Du temps », et je cite « Ainsi, c'est seulement par l'épreuve du travail que me sont donnés, et toujours ensemble, temps et étendue. Le temps comme condition, l'étendue comme objet de mon action. La loi du travail enferme, quant à mon action, qu'elle dure, quant au monde, qu'elle s'étende. » Fin de citation. Médiation entre ce que je suis et ce que je voudrais être, le travail laisse des traces, il imprime des souvenirs, il façonne la mémoire. C'est pourquoi, selon Veil, les mouvements du corps, qui sont de l'ordre de l'instinct ou du simple maintien de la vie organique, tout comme les pensées qui n'impliquent aucun rapport avec le réel, ne peuvent être considérées comme issues du travail. Si la consommation nous rapproche de l'animalité, le travail, lui, révèle les possibilités de la pensée dans le monde. Au fond, le travail réalise la marque de la matière, de la pensée sur la matière. C'est parce que la matière résiste et parce que l'humain pense et veut que le travail actualise les capacités de la personne. En effet, le travail implique trois composantes des capacités humaines. 1. La contemplation. 2. La pensée. 3. L'action. Ces trois capacités humaines interpellent respectivement 1. La contemplation qui implique la perception. 2. La pensée qui coordonne la mise en rapport entre les choses perçues, mais la pensée qui établit également l'agrégation de signifiants à divers signifiés. 3. L'action qui favorise l'inscription de sa puissance relative dans le temps et dans l'espace, avec ou sans la médiation d'outils. Je me restreindrai, pour cette première partie, à explorer davantage les liens entre la pensée, la contemplation et le travail. Donc mon premier sous-point, la pensée dans le travail. D'une certaine manière, le travail, dans sa conception la plus idyllique, est l'activité par excellence de la liberté humaine. Car pour Veil, la liberté ne se définit pas par un rapport entre le désir et sa satisfaction, mais par un rapport entre la pensée et l'action. Un homme libre serait celui dont toutes les actions procéderaient d'un jugement inhérent à la fin qu'il souhaite, en considérant l'enchaînement des moyens nécessaires à l'obtention de la finalité désirée. Il s'agit bien entendu ici d'un idéal type, considérant que le tissu des nécessités, les médiations, l'imprévisibilité des autres constituent toujours un voile plus ou moins opaque dans l'exercice d'une contemplation, d'une pensée et d'une action parfaite. Une telle définition de la liberté humaine oriente la pensée pratique comme un lieu de coordination. Selon Weil, la pensée cherche l'unité. Elle a pour fonction de coordonner la diversité des éléments dans un tout cohérent, de manière à ce que les choses fassent lien entre elles. Ceci dit, et Weil en est tout à fait consciente, si le travail fait éprouver les contradictions inhérentes à l'ordre du monde, la pensée, elle, ne peut mettre en rapport, elle ne peut coordonner qu'un certain nombre limité de choses. Dépasser un certain niveau de complexité, et c'est notamment ce que Weil observe dans son expérience en usine, les rapports entre les choses n'apparaissent plus, ils se brouillent. La machine, par exemple, devient un véritable mystère pour Jaco. Il me semble ici que le processus de coordination effectué par la pensée implique, et particulièrement lors de situations complexes, un apport de l'intelligence qui n'est pas discursif. La logos apparaît comme un élément fondamental dans le travail. Je cite Weil. Condition essentielle d'un travail non servile. La fatigue du travail paralyse les facultés discursives, mais non pas la contemplation. Seulement, il faut des intermédiaires qui soient autre chose que des facultés discursives. Fin de citation. Weil parle d'intermédiaires non discursifs. Elle admet également que le travail puisse épuiser les facultés discursives, mais qu'il ne doit pas épuiser les facultés inhérentes à la contemplation. Dès ses premiers écrits, en abordant l'habitude dans le travail, elle affirme combien l'habitude constitue, et je cite, « une élévation spirituelle sans l'intermédiaire du langage ». Fin de citation. En effet, l'habitude dans le travail confie une certaine fluidité au corps, le rend si comparable à un outil que les mouvements deviennent pénétrables à la pensée, laquelle arrive à un degré élevé d'attention. Il convient donc de revenir à la question de la contemplation, et c'est mon deuxième sous-point, dans le travail, afin de comprendre l'importance du non-discursif, de l'allogos dans la perception. Comme le dit Weil, et je cite, « rien n'est plus essentiel que l'analyse de la perception et de la mise au jour des mystères qu'elle enferme ». L'exercice de perception n'implique pas uniquement le travail de la pensée dans ses capacités logiques. Une perception qui est lue, qui est mise en sens seulement à partir de la logique, aboutit, par exemple, à un mode de connaissance tel que ceux associés aux sciences modernes et notamment aux mathématiques algébriques. Cette approche de la connaissance transforme les données en choses, les signes ne signifient plus rien, ils se figent en strates superposées de savoir, mais d'un savoir qui a été déconnecté du réel, comme absous du monde. Dans son journal d'usine, Weil réfléchit à une manière d'associer simultanément la compréhension et la perception en proposant, et je la cite, « une nouvelle méthode de raisonner qui soit absolument pure et à la fois intuitive et concrète ». Ceci dit, si la lecture de la perception ne doit pas s'ancrer uniquement dans une orientation logique, la perception ne se réduit pas non plus au pur sensualisme. Weil ne propose pas une exploration de toutes les sensations possibles à la manière des nourritures terrestres de Gide. En soi, la sensation est passagère, elle s'efface, elle est comme en dessous du temps. Il faut actualiser la sensation par transposition, et cela implique nécessairement un certain rapport à la durée. Il n'est pas anodin que Weil, alors qu'elle aborde la méthode et la contemplation, réitère constamment l'importance du temps. Persévérer longtemps, sans faillir, en fixant son attention sur la chose. Par la durée, alors, la pensée descend dans le temps, les sens, eux, montent vers le temps. Il importe peu que l'exercice soit un succès en termes de résolution de problèmes. Ce n'est pas par le critère de l'utilité que Weil aborde la contemplation et la perception, mais par l'intermédiaire de la notion de nécessité, qui exclut tout bien représentable, car la nécessité, on le sait, est allogos. C'est peut-être en ce sens que Weil considère la finalité spirituelle du travail comme relevant de la contemplation des choses et de la nature. Pour elle, il y a, et je la cite, « une supériorité de l'intuition sur la discursion ». Mais comment alors l'intuition, notion très peu développée par Weil elle-même, comment l'intuition dans la perception prépare-t-elle à l'attention? Il faut d'abord considérer avec Weil que la pensée n'a pas d'autre objet que la pensée elle-même. On ne pense qu'à ce que l'on pense. de même qu'un certain regard demeure toujours orienté vers ce que l'on regarde, ou pour reprendre Merleau-Ponty, on ne voit ce que l'on regarde. Avec l'intuition, on observe qu'une part de l'appareil perceptif est antérieure à toute visée intentionnelle. On ne choisit pas par quoi on est touché. L'intuition ne se commande pas par l'effet d'une volonté, elle est prise par l'extériorité sans orientation souveraine du moi. Elle est affectée par les intermédiaires. L'intuition dans la perception rappelle alors à la pensée, comme le dit Veil, et je cite, que si loin qu'on pousse le langage, on ne trouvera par lui la réalité. C'est ici que l'intuition paraît porteuse d'une certaine promesse d'attention élargie. Si l'intuition est muette, il est possible d'apprendre à l'écouter en soi, notamment dans des situations de relative indifférence. Car la voix intérieure, pour reprendre l'expression de Veil, se tait dans la cacophonie des stimulations diverses. En ce sens, on remarque qu'à l'instar de la nécessité et du malheur, l'intuition est allogos, qu'elle est non orientée. Mais il y a plus, car l'aspect intuitif inscrit la perception dans un contact au réel qui ouvre à un décentrement à vide. Bien entendu, l'intuition ne fait pas tout, mais elle est, selon moi, le premier mouvement d'une série de trois, suivi du travail de la pensée et de l'attention. Schématiquement, on peut résumer les trois étapes comme suit. Premièrement, l'intuition. L'intuition rencontre. Elle est prise par les contradictions inhérentes à la nécessité. Mais elles sont toutes deux allogos. Deuxièmement, la pensée. L'intuition maintenue dans la durée monte vers la pensée, qui la décrypte à partir d'images et qui en cherche les rapports. L'intuition est, pourrait-on dire, une médiation entre la nécessité, les contradictions qui la forment, et la pensée, qui, elle, recherche l'unité. Troisièmement, l'attention. L'attention est l'exercice de la pensée sans retour sur soi. En maintenant l'attention, on apprend le détachement. En effet, on ne brise un attachement à une chose que par un attachement à une autre chose qui lui est contraire. Ainsi, dans l'impossibilité, les attachements s'annulent et la réalité nue apparaît. En prenant en soi deux éléments contraires, en les réfléchissant ensemble, c'est l'action même de la pensée qui devient outil. Je cite Veil. Quand l'attention fixée sur quelque chose y a rendu manifeste la contradiction, il y a comme un décollement. En persévérant longtemps dans cette voie, on parvient au détachement. C'est pourquoi, selon Veil, l'attention pure doit être un regard et non un attachement. C'est pourquoi également, et je la cite, « faute d'une transposition, la vertu du travail reste souvent stérile ». En effet, le travail est avant tout un apprentissage de la perception. On observe d'ailleurs un rapport analogique entre l'intuition et le travail. Ils sont tous deux structurés et façonnés par la loi de l'extériorité. Je cite Robert Chenavier. Le travail est l'activité liée en toutes ses parties par une loi non arbitraire, puisque c'est la loi même de l'extériorité, nécessité géométrique dans son essence. Le travail est donc l'homme le mieux préparé à comprendre que le monde est pure extériorité. » Fin de citation. En tant que contact avec la nécessité, le travail, s'il permet les conditions d'actualisation de la perception, est beau. Dans « Conditions premières d'un travail non servile », Simone Veil écrit, et je cite, « Le travail, pourvu qu'il soit transformé en poésie, est le chemin qui mène à l'attention intuitive. » Fin de citation. En ce sens, la pensée logique, qui demeure bien entendu importante, n'est pas l'unique base d'un travail libre. En effet, la pensée logique est toujours orientée, et donc toujours vulnérable au jeu des forces sociales et des passions égoïstes. Elle ne favorise pas le détachement que l'on retrouve dans l'apprentissage de l'attention. C'est en ce sens que l'intuition, en tant que renvoi innommable à notre corporéité, à la vulnérabilité de notre corporéité, et à cette loi de l'extériorité qu'il façonne, peut être conçu comme un préalable, un déjà-là de l'attention. D'autant que pour Veil, et je la cite, « l'attention extrême ressemble à de l'inconscience ». Il s'agit pour Veil d'apprendre à lire les sensations inscrites dans le corps, de trouver un langage au senti, ce que l'analogie, décrivant par image une parenté de rapport, offre à la conscience. Déjà dans ses cours de philosophie à Rouen, Veil demandait, je cite, « Y a-t-il une méthode pour trouver, pour arriver à trouver des analogies. C'est une question difficile, il me semble qu'il y ait de l'intuition et du hasard. D'une certaine manière, il s'opère un transfert de sensibilité à l'intérieur même de l'acte perceptif. Passant du silence des sens vers le langage en images analogiques, passant de l'indéterminé des stimuli extérieurs vers l'intériorité dirigée de la conscience, ce transfert favorise un contact concret avec le réel, comme si le monde entrait en soi. C'est en ce sens que la sensibilité, prise non comme jouissance, mais comme outil qu'il faut apprendre à manier, comme on apprend un nouveau métier, joue le rôle d'une révélation dans la perception du réel, qui lui est toujours non discursif. Dans condition première d'un travail non servile, Veil observe que l'éducation scolaire veille surtout à stimuler, et je la cite, « une forme inférieure d'attention, l'attention discursive, celle qui résonne ». Mais menée avec une méthode convenable, elle peut préparer l'apparition dans l'âme d'une autre attention, celle qui est la plus haute, l'attention intuitive. Fin de citation. Avant de poursuivre sur les possibilités d'un travail proprement humain, au sens d'une activité qui intègre réellement et concrètement les aptitudes propres à l'humain, soit contempler, penser et agir, j'aborderai rapidement son contraire, soit ce qui constitue un travail aliéné. Pour le temps qui m'est imparti, je me concentrerai plus spécifiquement sur la transformation, dans un travail oppressif, du rapport entre l'humain, le monde et les conditions de perception. Considérant que les conditions matérielles de l'avènement d'une attention élevée vont de pair avec une orientation vers la justice sociale. Donc mon deuxième point, l'aliénation de la perception comme arrachement à la condition humaine. Dans la condition ouvrière, Simone Veil observe combien la monotonie, la cadence rapide et continue, les risques de blessures, l'absence d'accomplissement associé au travail à la chaîne, l'insécurité d'emploi, l'obsession des sous, la peur et l'épuisement transforment la relation du travailleur avec le monde, réduisant sa liberté, et je cite, « à une docilité de bête de somme résignée ». Et c'est le genre de souffrance dont aucun ouvrier ne parle, ça fait trop mal seulement d'y penser. Fin de citation. Plutôt que de susciter la révolte, l'organisation du capitalisme des machines favorise une oppression qui éteint parfois jusqu'à la capacité de penser. Trois éléments peuvent être rapidement soulevés de l'analyse veillienne du travail machiniste. Premièrement, la puissance recherchée dans le capitalisme est une course à la puissance. Les moyens sont substitués aux fins, puisque en soi, le capitalisme ne propose rien d'autre qu'une logique d'accumulation autoréférentielle. Deuxièmement, par l'effet de la course à la puissance sur les motivations, ceux qui dominent, tout comme ceux qui sont dominés, sont transformés par les jeux de l'oppression. Les premiers ne ressentent plus aucune forme de limitation. Leur tentative constante pour augmenter leur puissance et pour la faire reconnaître socialement révèle en fait leur vulnérabilité face au regard du collectif. Et les seconds, ceux qui sont oppressés, sont transformés subjectivement sous l'oppression, notamment sous l'effet d'une limitation extrême. En outre, celle de la limite de temps pour effectuer un geste, limite de rôle dans le rapport au résultat final, limite d'énergie face aux exigences perpétuelles, ils finissent par se transformer en choses. Troisièmement, en considérant l'hyperspécialisation et la fragmentation de l'organisation du travail, il devient extrêmement difficile pour la pensée de mettre en relation les différents éléments le constituant. En ce sens, l'effort de concentration permettant de comprendre ce que l'on fait, de penser une action avant de l'accomplir, s'avère extrêmement souffrant, voire quasi impossible. Dans la difficulté de saisir la réalité, l'argent devient un mobile facilement représentable puisqu'il n'exige pas d'effort d'attention. Passant de moyen, il devient une fin et se transforme en objectif ultime. Il teint alors la lecture que la personne fait du monde. Mais il l'atteint d'autant plus que pour Veil, la perte du sentiment de réalité augmente proportionnellement le besoin d'attachement. Les compensations issues de fausses finalités gagnent alors en importance. Ces trois éléments, 1. La puissance comme finalité, 2. L'oppression comme moyen, 3. L'épuisement du corps et surtout de la pensée comme effet, bref, tous ces éléments transforment fondamentalement les possibilités d'attention et par là les modalités d'être dans le monde et d'y agir. En analysant la rationalisation tayloriste, mais surtout par son expérience en usine, Veil observe que, et je cite, « Il est naturel à l'homme et il lui convient de s'arrêter quand il a fait quelque chose, fût-ce l'éclair d'un instant pour en prendre conscience. Cet éclair de pensée, d'immobilité et d'équilibre, c'est ce qu'il faut apprendre à supprimer entièrement à l'usine quand on y travaille. Les manœuvres sur machine n'atteignent la cadence exigée que si les gestes d'une seconde se succèdent, d'une manière ininterrompue et presque comme le tic-tac d'une horloge, sans rien qui marque jamais que quelque chose est fini et que quelque chose d'autre commence. » Fin de citation. Paradoxalement, cette augmentation de la vitesse, qui ne permet aucune réflexivité, est perçue par les ouvriers comme sans fin. Ils ont trouvé le temps long, nous dit Veil. L'impossibilité d'ancrer la pensée dans l'action, de prolonger par l'esprit le contact que le corps entreprend avec la matière, est une humiliation pire que la souffrance. L'humiliation d'un vide imposé à la pensée. Il s'agit ici d'un vide qui, contrairement à celui expérimenté dans la contemplation de la nécessité, tire vers le bas. Pour reprendre la formule de Veil, ce n'est pas la même souffrance qui dégrade et qui anoblit. Deux souffrances différentes. Fin de citation. Ces trois éléments, soit la recherche de puissance, l'oppression et l'épuisement, opèrent tous au travers d'une temporalité bien précise et merveilleusement représentée par l'expression « time is money ». En effet, la cadence en usine ne laisse pas la pensée s'évader, car le travail exige un minimum de concentration. Mais la pensée ne peut s'impliquer dans le travail, car celui-ci, par la complexité des machines, inverse les rapports de rôle. La machine contrôle et coordonne, alors que la personne exécute au rythme imposé par la technique. Ou, pour reprendre les vues de Marx, les choses jouent le rôle des hommes et les hommes le rôle des choses. Ni évasion, ni implication, ni morte, ni vivante, la pensée devient zombie. Le travail en usine est un arrachement à la condition humaine. Cet état de souffrance, prolongé dans la durée et fragilisé par une vulnérabilité sociale, suffit à faire basculer la personne dans le malheur et à faire perdre encore davantage de contact avec la réalité. Je cite Veil, « Le malheur destructeur du « je ». Il détruit de la réalité, il ôte de la réalité au monde, plonge dans le cauchemar. » Fin de citation. L'impossibilité de la pensée enfermée dans le malheur à entrer en contact avec le monde concret contamine la perception. L'imagination offre aux individus un substitut de réalité au travers de réconfort peut-être factice, mais aux effets bien réels. C'est le règne de Protée. Cet état est propice à l'apparition, comme signe compensatoire, de différentes conséquences relevant toutes d'une diminution drastique de la qualité perceptive. Idolâtrie sociale, telle que la consommation effrénée comme mode de reconnaissance sociale. Idolâtrie politique, telle que le 20e siècle nous en a offert de terribles exemples et que rappelle aujourd'hui, par exemple, l'étrange populisme de Donald Trump. Dans son analyse des problématiques de la civilisation moderne, Veil parle de trois monstres. Argent, machinisme, algèbre. Dans les trois cas, il s'agit d'une création de l'humain, régie depuis une certaine manière de connaître, de percevoir, qui, plutôt que d'ancrer la connaissance dans la réalité, de comprendre tout en percevant, façonne des systèmes de signes abstraits. L'abstraction, qui n'est jamais confrontée à la nécessité, est forcément illimitée et sans mesure. Elle ne convie pas la personne à l'expérience de l'impossibilité qui est le propre de la nécessité, mais au contraire l'enferme dans un système d'imagination. Ainsi, comme l'avait remarqué Veil, les trois monstres de la civilisation moderne ont été créés par les hommes, mais les hommes sont devenus esclaves de leur propre fabrication. Peut-être pourrions-nous ajouter un quatrième monstre. En observant par analogie un même type de rapport que ceux relevés par Veil, il me semble qu'un quatrième monstre se retrouve dans le temps. On remarque que Veil aborde de manière récurrente l'importance du temps, de la durée dans la contemplation et dans l'attention. Tout comme elle mentionne longuement dans son journal d'usine des éléments propres à la temporalité. Combien de temps cela lui a pris pour faire un certain nombre de pièces, combien de temps elle a perdu à chercher tel instrument, combien de temps il faudrait dormir, etc. Bien entendu, Et contrairement à l'argent, au machinisme et à l'algèbre, le temps n'est pas uniquement une construction humaine. Il y a le temps naturel, le temps du corps, par exemple, combien de temps cela nous prend pour digérer, ou le temps de la nature, la durée d'apparition du soleil, le cycle lunaire, etc. On pourrait parler ici de temps naturel, ou pour le nommer dans une terminologie vélienne, de nécessité temporelle. Mais il y a un autre type de temps qui, lui, est inhérent à une construction humaine, le temps de l'horloge. L'horloge mécanique est une technologie qui transforme complètement le rapport au monde, la manière de le percevoir. Elle permet une division du temps en segments interchangeables et mesurables, donnant au temps une objectivité, une possibilité neutre de le calculer. Inventée au Moyen Âge dans les années 1300, maintenue principalement dans les communautés savantes jusqu'au second tiers du XVIe siècle, les horloges gagnent ensuite les villes et se démocratisent de plus en plus. Dans son livre « L'ère du temps », Jonathan Martineau explique, et je cite, « La quantification systématique du temps représente un événement majeur dans l'histoire. Cette quantification permet d'abstraire les temporalités, les rythmes, les séquences temporelles et les circuits de temps, et aussi les durées, en les séparant des pratiques et des processus concrets auxquels ils appartiennent. » Ce qui les rend commensurables et permet de les réinscrire dans un cadre abstrait. Le temps abstrait fait ainsi son entrée dans les relations sociales. » Fin de citation. Le temps abstrait de l'horloge est une technologie qui a façonné un système de signes, secondes, minutes, heures, journées, et cette technique a contribué à la transformation des journaliers en ouvriers dans les usines au 19e siècle. L'universalisation de cette technique à travers du système de Greenwich naturalise ce qui est en fait une abstraction, une temporalité vide, continue, uniforme, indépendante des événements, alors qu'au contraire, le temps naturel se rapporte à la nécessité, au concret du réel, que ce soit à travers les cycles naturels ou la périodicité de la vie humaine. Comme l'aborde Jameson dans The Violence of History, et je cite, « Au début, il existait plusieurs histoires. Les histoires locales des innombrables tribus, les histoires en voie de disparition des peuples sans écriture ou sans mémoire collective, les dynamiques autonomes des États isolés. Une histoire unique ne commence à poindre qu'avec la destruction de ces multiples temporalités collectives, avec leur unification dans un système mondial unique. Cette totalisation est ce qu'on appelle le capitalisme. » Fin de citation. Ainsi, la technique de l'horloge divise le temps de manière abstraite, bien que ce système de signes ait pris l'allure, dans nos propres perceptions, d'une donnée tout à fait naturelle. Temps abstrait et capitalisme fusionnent, à l'instar de l'argent, du machinisme et de l'algèbre, par une désincarnation du concret. La formation de la valeur marchande est parallèle à celle d'un temps abstrait. Cela, Simone Veil l'avait vu dans son analyse du taylorisme. Il s'agit de faire coordonner les choses du « dehors », par la rationalisation, plutôt que du dedans, par le travail de pensée de chaque personne. Veil a également vu que la diminution des heures de travail n'amoindrisserait pas l'oppression, car les heures travaillées, par l'intensité de la cadence, transformaient les travailleurs en bêtes de somme. Dans son livre « Temps, discipline du travail et capitalisme industriel », E.P. Thompson montre bien que l'intériorisation, par les classes populaires des standards du temps abstrait, s'est établi corrélativement à l'intériorisation des standards du capitalisme industriel. Le temps devient un enjeu de combat politique, combat des journées de travail de 10 heures, combat pour le paiement d'heures supplémentaires, etc. Il devient nécessaire alors de se battre non contre le temps, mais à propos du temps. Car le temps de l'horloge a beau être un temps abstrait, il a des effets concrets. Le temps abstrait devient l'étalon de mesure et détermine l'action individuelle dans le travail, voire dans la vie en général. En ce sens, la technique du temps de l'horloge, devenue naturelle pour nous, presque ahistorique, est un système de signes abstraits qui a pour rôle de coordonner l'action depuis une source extérieure à la pensée. Qu'en est-il alors des conditions du travail actuelles et surtout des conditions de perception dans le travail depuis le nouveau management? Avec l'avènement du néolibéralisme, il ne s'agit plus seulement de comprendre que « time is money », mais aussi qu'il ne faut pas perdre son temps. Il est intéressant ici de souligner que l'hégémonie du néolibéralisme s'opère parallèlement à l'universalisation du système de Greenwich, qui depuis 1967 a posé universellement la seconde comme unité de base du temps social, de manière à structurer toutes les infrastructures militaires, financières, politiques, communicationnelles, dans une course à la précision et au contrôle. Dans le nouvel esprit du capitalisme, Luc Boltanski et Eve Capello observent une augmentation de la temporalité au travail. La logique d'une autorité du travail en réseau, où les tâches doivent être effectuées sans hiérarchie, assumées mais sous une horizontalité tout aussi exigeante, dévoile une nouvelle conception de l'épargne et du temps pour l'individu. D'autant plus que la temporalité du travail, ne serait-ce que par l'effet technologique du numérique, est accélérée. Puisque le temps n'est pas une donnée stockable, il doit être constamment utilisé de manière à susciter de nouvelles connexions. Comme l'avancent Boltanski et Capello, et je cite, « Épargner dans ce monde, c'est donc d'abord se montrer avare de son temps et judicieux dans la façon dont on l'affecte aux autres. Cela vaut évidemment pour ce qui est du temps que l'on consacre aux autres. Ne pas perdre son temps, c'est le réserver pour établir et entretenir les connexions les plus profitables, c'est-à-dire les plus improbables et les plus lointaines, au lieu de le gaspiller dans la relation avec des proches ou avec des personnes dont le commerce procure uniquement un agrément d'ordre ludique ou affectif. » Fin de citation. La multiplicité des projets, l'immédiateté du temps et le critère d'adaptabilité poussent la personne immergée dans la logique néolibérale à répondre à une cacophonie de stimulus qui diminue sa capacité d'attention. Être multitask, être adapté à une multitude de tâches simultanées, devient un critère d'excellence. Pour le dire autrement, si le taylorisme interchangeait le rôle entre la machine et l'humain, le néolibéralisme, lui, encourage l'indétermination des différences entre la machine et l'humain. Il fait de l'humain une espèce de machine souple, au travers d'une temporalité qui, même dans les sphères de loisirs, réprouve les temps d'arrêt, considérant qu'un entrepreneur de soi-même ne perd jamais son temps. Argent, machinisme, algèbre, temps de l'horloge. Ces systèmes de signes abstraits, les types d'organisation qui en découlent, cultivent des normes et des stress déconnectés de la nécessité concrète. Mais notre manière de recevoir, notre corps, lui, est matériellement issu d'un système de nécessité et répond aux facteurs de stress abstraits comme s'ils étaient concrets. Par exemple, comme le mentionne la neuroscientifique Sonia Lupien, spécialiste des effets du stress sur le cerveau, on observe une augmentation des conséquences liées au stress alors que les événements concrets stressants diminuent. Nous ne sommes plus menacés par le froid, la faim, les animaux, les armes, autant que nous l'étions il y a quelques centaines d'années. Mais le cerveau ne fait pas de différence entre un stress issu de la nécessité et le stress engendré par des dictats sociaux imaginaires. Sans l'exercice de la perception et le temps qu'elle exige, le cerveau répond instinctivement aux stimulus. Selon Lupien, le cerveau y répond, neurologiquement et endocrinologiquement parlant, de la même manière qu'à l'ère préhistorique. Mais avec l'augmentation des stress abstraits, les réactions cérébrales se font de plus en plus fréquentes. En ce sens, et je la cite, « Compte tenu que nous percevons des stress relatifs plus fréquemment, notre cerveau ne peut s'empêcher de générer une réponse de stress de la même manière que si nous faisions face à un mammouth. Ce qu'il est important de retenir ici, c'est que notre système de stress n'a pas été conçu pour être activé aussi souvent qu'il ne l'est de nos jours. Après tout, nous ne chassions pas le mammouth à tous les jours. Un seul mammouth pouvait nous nourrir pour plusieurs semaines. » Fin de citation. Ce faisant, les possibilités de pont entre l'intuition, la pensée et l'attention se font de plus en plus rares, puisque cela exige du temps. En situation de stress, nous n'avons pas le temps. Et s'il ne faut pas perdre son temps, chaque situation peut devenir stressante. Ainsi, on observe une puissance de l'imagination sur les individus qui intègrent les dictats néolibéraux, lesquels trouvent bien entendu leurs racines déjà dans ce que Veil a observé en usine dans les années 30. Comment alors favoriser des conditions de travail qui permettent de développer notre perception de manière à départager mieux ce qui relève de la nécessité et ce qui découle des idolâtries sociales? J'en arrive à mon troisième et dernier point. Donc, troisièmement, la perception comme travail. Selon Veil, le plus grand crime dans le travail est, et je la cite, « le pire attentat qui est sans pardon, c'est l'attentat contre l'attention des travailleurs. Il tue dans l'âme la faculté qui y constitue la racine même de toute vocation surnaturelle. » Ainsi donc, pour le rappeler rapidement, on a remarqué que 1. L'éducation favorise surtout l'épanouissement d'une forme d'attention moyenne, l'attention discursive, qui est toujours orientée et rationalisée. 2. Que le travail taylorisé, quant à lui, réduit l'attention à sa plus faible expression, si l'on considère l'unique souci de la vitesse comme attention minimale. Troisièmement, dans l'expérience du régime néolibéral, on observe une valorisation, voire une exigence, du régime de l'attention faible, l'attention multitâche. En considérant le contrôle de plus en plus minutieux de la temporalité, l'intégration des normes inhérentes à un temps qu'il ne faut pas gaspiller, la vulnérabilité des conditions de travail associées à des statuts de plus en plus contractuels, adaptables et flexibles, par quels moyens est-il possible de favoriser l'avènement d'une perception intuitive, laquelle est un premier pas vers une attention élevée? Il s'agit d'un double défi, puisque la situation précaire des travailleurs semble s'invisibiliser. Cette situation trouve un substitut par une reconnaissance de la possibilité de consommer. Ce que Veil avait déjà très bien vu lorsqu'elle commentait la volonté syndicale d'augmenter les salaires. On peut y faire quelques liens avec Bourdieu dans son étude sur la consommation ostentatoire des classes populaires. Il s'agit ici d'une intégration par les classes populaires des systèmes distinctifs propres aux classes supérieures afin d'en tirer une valorisation et une reconnaissance. Le faible, pour parler en termes veiliens, intègre la lecture du fort. En retournant au corps, à la contemplation, on défait, l'espace d'un instant, ce qui a été formé par les habitudes sociaux, par les jeux de pouvoir et de domination. Pour reprendre Merleau-Ponty, et je cite, « L'homme n'est pas animalité plus raison, et c'est pourquoi on s'occupe de son corps. Avant d'être raison, l'humanité est une autre corporéité. » Fin de citation. Penser la reconnaissance sans l'attention et les conditions qui en sont inhérentes, c'est accepter le risque de ne pas distinguer ce qui est de l'ordre du construit, comme le temps de l'horloge, de ce qui est nécessité. C'est aussi prendre le risque d'une reconnaissance déjà orientée, qui ferait fi de l'invisible, de l'alogos. Ainsi, certaines catégories de travail ne peuvent être traduites en unité de l'horloge. Pensons aux artistes, mais aussi aux soignants, aux tiers aidants, aux services d'éducation. Tout temps ne peut faire objet d'une valeur monétarisée et objective. Et tout temps, et tout particulièrement, le temps de la contemplation. Si l'éducation met l'accent sur l'attention discursive, Veil observe que l'apprentissage, lui, peut favoriser le déploiement de l'aspect intuitif en chacun. Dans ses cahiers, elle note que dans l'apprentissage, il n'y a aucun rapport entre l'imagination, les mouvements exigés pour changer la matière et la matière. L'apprentissage est une rencontre avec la nécessité, un moment d'humilité inhérent à une diminution de l'ego. Ce moment peut également opérer une mise en lumière des illusions issues de notre propre imagination. D'où la violence de l'apprentissage, car ce dernier exige, et je cite Veil, « la renonciation la plus intime, celle à l'imagination ». D'une certaine manière, l'apprentissage favorise, si l'on peut dire, une mini-décréation. Du moins, il permet un début de contact à la nécessité. Car la rencontre avec la nécessité, dans ce qu'il demeure d'impénétrable en elle, force le regard. Mais un regard différent, un regard non orienté par l'ego. Par exemple, dit Ravel, je cite, « la mathématique, l'épaisseur impénétrable de la mathématique, nous force à diriger le regard de l'intuition encore ailleurs. » Dans une certaine mesure, Veil semble porter dans un même mouvement intuition, intelligence et contemplation. Je la cite. « L'intuition pure, l'intuition intellectuelle, la contemplation est absolument sans erreur. » Ainsi, tout l'appareil perceptif, Pour Veil, doit être orienté de telle manière que les ponts entre soi et le monde se développent de la façon la plus vraie possible. Pour ce faire, pour ce faire, une part de la perception doit se défaire de l'attachement. Cet attachement, en tant qu'orientation égocentrée, transforme notre rapport au monde. Il s'agit de laisser les choses être ce qu'elles sont, et non pas les imaginer telles que nous voudrions qu'elles soient. Se débarrasser de l'attachement dans la perception, c'est donc se débarrasser de l'imagination, des récits qui consolident la centralité de notre ego. Veil va plus loin encore et affirme que le travail qui mène d'une perception égocentrée vers une perception non orientée est analogue à celui de la décréation spirituelle. Je la cite. Le passage à l'éternel, c'est l'opération de l'âme analogue à celle de la perception par laquelle, quoi que nous suggère la perspective, nous ne nous mettons pas au centre de l'espace. Et c'est de même la condition de la perception, la condition pour qu'apparaisse le réel. Fin de citation. À l'instar de l'âme qui entre en contact avec Dieu, Veil note dans ses cahiers que l'intuition ne peut être précédée que d'une nuit obscure, contrairement à la pensée discursive. Pour qu'elle vienne l'intuition dans la conscience, pour qu'elle devienne langage sans perdre de sa réalité, bref, pour qu'elle se transforme en analogie, il faut, selon Veil, contempler longtemps. Si elle continue à apparaître dans le temps, c'est qu'il y a analogie. Ainsi, la durée est fondamentale dans la perception. Le temps, selon Veil, joue dans la vie intérieure le rôle de l'espace. Si l'on doute d'un objet dans la vie sensible, on en fait le tour. Le temps permet, lui, de faire le tour de ce que la nécessité a imprégné en nous. Il en modifie les sensations et permet de discriminer entre la perception imaginée, faire une discrimination entre la perception imaginée et le réel concrètement perçu. Cet apprentissage de la contemplation a une grande importance sociale. La pensée, en soi, cherche à fuir le malheur. Par le contact avec la nécessité, il est possible pour la pensée d'apprendre à voir l'impossible, à souffrir de cette limitation, et en acceptant la souffrance, d'arriver par transfert à voir un malheureux et à prendre en soi sa souffrance. Dans les mots de Veil, et je cite, « C'est tirer l'horreur hors des ténèbres. » Sous la lumière de l'attention, c'est œuvre de décréation. Rien n'est plus beau au sens le plus précis du mot. La pureté est le pouvoir de contempler la souillure. Fin de citation. On comprend alors toute l'importance d'une perception qui s'ancre aussi dans la logos, car s'ensuit, analogiquement, la capacité d'entendre le silence de Dieu, mais aussi, dans une visée un peu moins métaphysique, la capacité d'attention envers le malheur. Je cite Veil. « La pensée de la souffrance n'est pas discursive. À la douleur physique, au malheur, la pensée se heurte comme la mouche au ver, sans pouvoir progresser aucunement, ni y découvrir rien de nouveau, et sans pouvoir s'empêcher d'y revenir. Ainsi s'exerce et se développe la faculté d'intuition. » Fin de citation. Si la question d'un travail non servile préoccupe Veil, c'est que le travail actualise l'humanité dans sa possibilité perceptive, qui est aussi une perception non discursive et non orientée. Idéalement, par un apprentissage concret, on entre en relation avec la nécessité. On subit la violence de la limitation, mais une violence qui monte vers le haut, qui élève. On distingue l'imaginaire du réel, on apprend à lire. On perçoit sans cesser de comprendre, on se libère en quelque sorte du gros animal, on pose un regard décentré, un regard attentif sur le monde et sur les autres. Chacun et chacune est en mesure d'arriver méthodiquement à cette attention, car il ne s'agit pas ici de l'excellence des facultés, qui peuvent différer, mais de l'exercice de facultés que nous avons toutes et tous. Pour Simone Veil, et je cite, « Si les étudiants... les jeunes paysans, les jeunes ouvriers se représentaient d'une manière tout à fait précise les différentes fonctions sociales comme constituant des préparations également efficaces pour l'apparition dans l'âme d'une même faculté transcendante qui a une seule valeur, l'égalité deviendrait une chose concrète. Elle serait à la fois un principe de justice et d'ordre. » Simone Veil, en proposant sa formation d'infirmière de première ligne, semblait pour certains s'approcher de la folie. Pourtant, elle posait, à partir des problématiques de son temps, un double regard lucide. D'un côté, un regard sur les conditions réelles d'équilibre social, et de l'autre, un regard sur les puissances d'imagination collective. Je transposerai cette double exigence en demandant, en conclusion, ce qu'il nous est donné de faire en gardant à l'esprit, un, une orientation vers un équilibre social par l'avènement de conditions matérielles favorisant l'intuition et l'attention, deux, une prise de conscience des valorisations imaginaires de notre temps. L'éducation, encore aujourd'hui, favorise particulièrement l'attention discursive et donne peu de place à l'apprentissage de l'attention intuitive, de l'attention non discursive. On observe également, encore aujourd'hui, une forte séparation entre le travail manuel et le travail intellectuel, division qui s'opère à l'école dès la fin de l'adolescence. Au niveau du travail, comme on l'a vu rapidement en abordant Boltanski et Capello, on remarque que la valorisation du travail tient dans la capacité des travailleurs à s'adapter à différents projets, à être flexibles à diverses expériences et mobiles. Comment orienter ces imaginaires sociaux de façon à favoriser l'apprentissage de l'attention intuitive? Répondant aux normes de l'adaptabilité et de la flexibilité, les jeunes sont en soif d'expérience et recherchent de plus en plus de possibilités de mobilité. Voyage sac à dos, travail à l'étranger, bénévolat dans des ONG. Si certaines de ces expériences ont des conséquences majeures et positives sur les trajectoires subjectives, d'autres s'opèrent sur le mode du loisir et de la mise en scène de soi. En partant de ces faits, on pourrait penser, dans le parcours des études, à une année dédiée au travail en apprentissage. L'idée de fond serait d'inscrire au cœur de l'expérience de l'apprentissage l'importance de la contemplation, du regard, du temps de perception. Contemplation du travail à faire, de la nécessité, de la difficulté, parfois du dégoût au travail, mais aussi contemplation des autres qui travaillent et qui en ont l'habitude. Ces derniers, alors, sortent un peu de l'invisibilité sociale en devenant des exemples pour l'apprenti. Allons un peu plus loin. Imaginons un jeune homme issu d'une famille aisée qui effectue un stage d'apprentissage auprès de préposés à l'entretien. L'invisibilité de ce travail, qui en soi est un travail visant à effacer la saleté, un travail qui ne devient visible que lorsqu'il est mal effectué, bref, ce jeune homme qui en fait l'apprentissage aura toujours la possibilité de rejeter l'expérience et de mépriser ses collègues. Mais il aura également la possibilité de comprendre, jusque dans sa chair, l'égalité fondamentale de tout travail, peu importe l'objet du travail. Nous avons aujourd'hui un accès au savoir pratiquement sans limite, mais le savoir par l'expérience, celle du corps, n'a pas les mêmes effets. Aussi savons-nous tous sous quelles conditions inhumaines sont réduits les travailleurs d'Asie du Sud-Est qui fabriquent les iPhones et autres technologies. Mais la consommation d'iPhone, malgré ce savoir, demeure valorisée socialement. En serait-il toujours ainsi? Si dans une mondialisation idéale, des jeunes occidentaux de 18 ans quittaient une année faire leur apprentissage auprès de travailleurs thaïlandais, reviendraient-ils friands d'iPhone? Les perceptions, les valorisations sociales et les finalités en seraient-elles transformées? Ces questions resteront bien sûr sans réponse, puisque ce genre de projet n'arrivera jamais. Ceci dit, il s'agit surtout de saisir combien l'égalité fondamentale du travail, peu importe l'objet du travail, est d'abord issue d'une forme d'attention à la réalité des choses. Il faut apprendre à voir, notamment grâce à une rencontre avec cette réalité silencieuse qu'est la nécessité. Il s'agit, d'une certaine manière, de transposer l'expérience de Simone Veil, de s'inspirer des conditions matérielles qui ont formé son attention si haute, celle qui fut à la fois étudiante, professeure, ouvrière en usine, combattante et ouvrière agricole. Merci.